BW. Magazine Santé.
Un cerveau en pleine forme. Bonjour, je m'appelle Roby, je suis ton cerveau. Je suis située à l'intérieur de ta tête et je vais te raconter comment tu peux prendre soin de moi.
Sensibiliser les enfants aux habitudes de vie quotidiennes qui permettent de garder un cerveau en bonne santé, c'est l'objectif de Roby, un petit personnage de dessin animé, héros du projet éducatif Un cerveau en pleine forme. On en parle avec Éléonore Bayen, la créatrice de Roby. Et puis cette semaine, on ira aussi au Bénin pour parler de l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Je veux parler de la fistule obstétricale. Vous écoutez la Deutsche Welle, vous écoutez le magazine Santé. C'est Constance Fischer au micro. Soyez les bienvenus. On these streets where I played, and these trains that I take, I saw fire. But now I've seen the city change in oh so many ways. Principale cause de handicap et de dépendance parmi les personnes âgées dans le monde, la démence nous concerne tous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 50 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, un chiffre qui pourrait être multiplié par 3 d'ici 2050. À l'heure actuelle, il n'existe pas encore de traitement qui permette de guérir de la démence ou de modifier l'évolution de la maladie. En revanche, on peut dès le plus jeune âge influer sur les facteurs de risque. C'est ce que nous explique le docteur Éléonore Bayen, spécialiste de rééducation neurologique. Elle s'est entourée de chercheurs, d'enseignants, de spécialistes de la communication et elle a donné vie à Roby.
Les travaux scientifiques des 10 dernières années ont mis en évidence qu'il existe des pistes de prévention qui peuvent diminuer en gros de 35% la survenue de démence. Donc dans une certaine mesure, si on fait attention à son style de vie, à certaines habitudes de vie simples, eh bien on peut agir sur ce que les scientifiques appellent les facteurs de risque modifiables et avoir un impact sur la survenue de démence chez un certain nombre de personnes.
Est-ce que le but de cette vidéo, c'est peut-être aussi de faire moins peur justement sur ces maladies?
Tout à fait. La démence, c'est un groupe de maladies dans lesquelles les troubles cognitifs et comportementaux vont être responsables d'une perte d'autonomie. C'est-à-dire que la personne atteinte de démence ne va plus être capable de réaliser un certain nombre d'actes de la vie quotidienne et donc de vivre seule. Alors, il existe différents types de démence, hein, différentes causes. La plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer. Et en effet, comme vous le dites, il y a autour de la démence un petit peu de stigmatisation qui peut être due au manque d'information, à la non-compréhension. Et donc notre démarche est en effet aussi de essayer de décloisonner la science et de parler de la santé du cerveau. On ne parle jamais de la maladie d'Alzheimer dans cette vidéo, mais de parler du cerveau de façon à essayer d'expliquer mieux comment est-ce qu'on garde un cerveau en bonne santé et quand est-ce qu'un cerveau peut être malade. Et on espère aussi qu'en s'adressant aux plus jeunes, donc aux enfants, il y aura peut-être un effet ricochet auprès des parents, auprès des grands-parents. Donc voilà, peut-être un lien intergénérationnel qui pourra se nouer autour de cette thématique de bonne santé du cerveau et pas forcément uniquement autour de la maladie d'Alzheimer.
Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les facteurs de risque de démence?
Dans la vidéo, donc, nous avons mis en évidence 8 habitudes de vie simples. Par exemple, il y a le rôle des apprentissages. Lorsqu'on apprend des nouvelles choses à l'école, mais également en dehors de l'école, on va construire plus de connexions cérébrales. Donc, ce qu'on explique aux enfants, on va rendre le cerveau plus résistant, plus fort. Alors, il y a aussi l'activité physique et la lutte contre la sédentarité. On sait que l'activité physique, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les vaisseaux et donc c'est aussi bon pour le cerveau. Il y a le régime méditerranéen, donc qui comporte l'alimentation à base de fruits et de légumes, les noix, préférer l'huile d'olive aux autres huiles et éviter de manger trop de viande rouge par exemple et de fritures. Nous parlons également de la prévention du traumatisme crânien, qui est un problème de santé publique majeur dans le monde. Et donc le traumatisme crânien, c'est-à-dire un choc sur la tête, survient après généralement un accident de la voie publique ou un accident de sport. Voilà, et puis donc il y a d'autres facteurs de risque, il y a éviter la consommation du tabac, des drogues, l'excès d'alcool, Le rôle du sommeil est également extrêmement important. Nous mettons également en évidence l'importance de bien se traiter, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'observance thérapeutique, quand on a des maladies silencieuses, c'est-à-dire dont on ne sent pas forcément les symptômes, comme l'hypertension artérielle ou comme le diabète. Eh bien, c'est important de les traiter. Voilà. Et puis, alors, il y a un dernier facteur qui est très important, c'est le rôle des interactions sociales. Le fait d'avoir des amis, de voir des personnes nouvelles, voilà, de ne pas être isolé, eh bien, c'est bon pour la santé mentale. Et c'est extrêmement bon aussi pour avoir créé là aussi des nouvelles connexions cérébrales et renforcer son capital cérébral.
Après Roby, est-ce que vous allez faire d'autres vidéos peut-être, ou alors vous adresser dans d'autres langues aussi? Pour l'instant, elle est en anglais et en français.
Oui. Donc mybrainroby.org, en fait, ce n'est pas qu'une vidéo, hein, c'est vraiment une démarche de santé publique. Il y a au départ une vidéo que nous sommes en train de traduire et d'adapter dans différentes langues. Mybrainroby.org, c'est aussi un site donc sur Internet où nous avons mis des références bibliographiques scientifiques. C'est du matériel pédagogique. Et puis, My Brain Roby, c'est aussi une intervention dans les écoles et les enfants sont passionnés. C'est vraiment une opportunité formidable, je pense, de réaliser cette démarche de prévention tôt chez les enfants.
Merci au docteur Éléonore Bayen, spécialiste de rééducation neurologique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous retrouverez tous les détails sur le projet éducatif Un cerveau en pleine forme sur notre site internet dw.com/français. Véritable problème de santé publique, la fistule obstétricale touche 2 millions de femmes en Afrique subsaharienne, en Asie, dans les États arabes et en Amérique latine et aux Caraïbes. Selon l'OMS, entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas sont détectés chaque année, au Bénin notamment, où les femmes souffrant de cette lésion handicapante et humiliante sont aussi victimes de préjugés et de rejets. Le reportage à Cotonou de Claire-Stéphane Sacramento.
Lésion grave et dangereuse qui dévaste nombre de femmes en Afrique, les fistules obstétricales ont fait au Bénin entre 2009 et 2018 1501 victimes recensées. Selon les statistiques compilées par le Fonds des Nations Unies pour la population, 1335 femmes ont été réparées et 1069 guéries. Excision, mariage forcé, grossesse précoce, malnutrition lointaine ou encore retard pour arriver à l'hôpital au moment de l'accouchement. Les facteurs de risque sont nombreux. Docteur Dieudonné Zaongo, gynécologue obstétricien, explique.
La tête de l'enfant reste bloquée dans le bassin et la vessie est coincée entre la tête de l'enfant et le pubis ou bien entre la tête de l'enfant et le coccyx. Ça fait que pendant une heure, deux heures, un jour, deux jours, si l'enfant n'arrive pas à sortir, les tissus qui sont comprimés ne reçoivent plus le sang et les tissus meurent.
Thérèse ignore son âge. Mais s'il y a une chose qui restera à jamais gravée dans sa mémoire, c'est son mariage forcé.
J'ai été mariée de force. Je n'ai jamais été en consultation jusqu'au jour de l'accouchement. Quand les matrones ont échoué à me faire accoucher, j'ai été emmenée à l'hôpital. C'est suite à cela que la maladie a commencé. J'ai été opérée déjà, mais l'opération n'a pas réussi. Mon père dit que si je rentre, je repartirai chez mon mari et je ne veux pas parce que c'est à cause de lui que je suis malade.
En séjour dans une famille d'accueil, Thérèse ne veut en aucun cas retourner chez ses parents, de peur d'être reconduite de force chez son conjoint.
Si on veut m'y emmener, je m'enfuirai encore.
Rafiatou Imoru Basangi, sociologue, est au cœur de la lutte contre les fistules obstétricales.
Généralement, la femme qui souffre de fistules obstétricales perd des urines ou des matières fécales, et ce, par la voie vaginale. C'est une maladie très handicapante du fait qu'elle touche l'intimité de la femme.
Rejetée par son premier mari, Adiza a porté cette maladie invalidante 5 années durant.
Je ne savais pas que la maladie se traite. Je suis restée cachée pendant 5 ans. Je ne pouvais mener aucune activité. J'avais si honte.
Présidente de l'ONG Essor, Rafiatou Imoru Basangi accuse la communauté.
Ce sont les comportements de l'entourage familial, l'entourage communautaire qui créent un certain choc. On pense qu'elle a eu la maladie parce qu'elle a été infidèle. parce qu'elle a été ensorcelée. C'est les femmes qui sont donc généralement rejetées par tout le monde. C'est des femmes qui vivent à part.
Les fistules obstétricales n'étant pas une maladie routinière, les porteuses ne peuvent se rendre dans un centre de santé ordinaire pour se faire traiter. Mais au moins, il existe une possibilité de réparation, nous dit le docteur Dieudonné Zaongo.
Si les fistules sont simples, la guérison est presque certaine. Mais on peut fermer la fistule sans avoir une guérison. Parce que si la fistule est fermée, alors qu'il y a encore d'autres problèmes comme le sphincter qui ferme la vessie. Pour que nous urinons quand on veut, si ces muscles sont gâtés, même s'il n'y a pas de trou dans la vessie, on perd involontairement les urines. Il y a d'autres qu'on n'arrive pas à guérir parce que la vessie est complètement gâtée ou bien le sphincter est complètement gâté. Et là, il faut trouver d'autres astuces.
La réparation et la guérison étant onéreuses, les victimes, la plupart pauvres, n'ont pas accès aux soins. Mais sur le terrain, il existe une organisation dans le but de prendre en charge gratuitement les femmes touchées, d'après Rafiatou Imoru Basangui.
Nous sommes une diversité d'acteurs et chacun a un rôle bien précis. Celui de l'ONG, par exemple, est de faire les sensibilisations au niveau des communautés afin de recruter le maximum de femmes pour les soins. Lorsqu'elles sont là, nous essayons aussi de les accompagner en assurant aussi leur hébergement et leur
alimentation.
Pendant les soins qui durent généralement un mois, l'ONG est là pour apporter une assistance aux femmes de bout en bout.
Une mission de prise en charge médicale gratuite des femmes souffrant de fistules obstétricales aura lieu du 1er au 20 avril 2019 à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, dans le nord du Bénin. Une opportunité pour soulager les peines de centaines de femmes.
Et si ce magazine vous inspire des questions, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant un mail à français@dw.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, restez en bonne santé et à l'écoute de la DW.